la pause déjeuner. Il est temps de jouer. C'est ludique, c'est ludique. 100% jeu de société.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique, les amis. Et bah oui, votre seule quotidienne qui parle de jeux à la radio. Alors tous les jours, je vous présenterai dans votre pause déjeuner un jeu, je vous dirai comment on joue, quel style de jeu et ce que j'en pense. Et puis le lundi, bien sûr, on retrouvera Ludo avec une nouvelle rubrique qui s'appelle Le Point sur les J. Eh bien, C'est Ludique, ça commence tout de suite. Et on va parler aujourd'hui au menu de Rajak, un jeu de Maxime Mercier et Mathieu Kahn, illustré par Zell. Un jeu d'ambiance avec du bluff et de la gestion de main, édité par Studio H pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Alors le but de Rajak, c'est obtenir 25 points comme au Blackjack pour l'emporter, mais si vous dépassez, bien c'est perdu. Chaque joueur essaiera de planifier ses coups pour jouer ses cartes, mais bien entendu, tout peut changer d'un moment à l'autre car les cartes ont des effets, contrairement au jeu du casino. Rajak, c'est 4 paquets de 12 cartes avec des numéros allant de 1 à 12. Vous en choisissez 2 que vous mélangez, ça vous donne une bonne rejouabilité car les cartes ont des pouvoirs différents. Pour une première partie, vous prenez le paquet rouge et bleu, les effets sont les mêmes. La mise en place est très rapide, vous lancez 6 jetons bonus qui vous indiquent des effets. Ensuite, chaque joueur va recevoir 2 cartes. On en met une face cachée, les autres cartes formeront la pioche. Voilà, vous êtes prêt à jouer. Mais alors, comment on joue ? Quand vous commencez votre tour, vous avez une carte en main. Puis, vous devez prendre une carte, la première de la pioche ou celle visible sur la défausse. Ensuite, 3 choix s'offrent à vous. Jouez une carte face visible, dans ce cas vous appliquez l'effet indiqué sur la carte, ou vous jouez une carte face cachée. Tant qu'une carte est face cachée, sa valeur ne compte pas. Enfin, la dernière possibilité, défausser une carte et retourner une de vos cartes qui était face cachée, mais inutilement bien sûr, si vous pouvez appliquer son effet. Plus la valeur de la carte est forte, moins le pouvoir de la carte est intéressant. Parmi les pouvoirs, rejouer, déplacer des jetons, mais aussi et surtout de retourner des cartes. Car dès que les valeurs des cartes face visible sont supérieures à 25, le joueur est éliminé. Celui qui élimine un joueur remporte un point de victoire, sachant qu'il en faut 3 pour l'emporter. Faire un Rajak, c'est-à-dire afficher 25 points, permet de remporter 2 points. Les parties sont donc très rapide. Alors, qu'est-ce que je pense de Rajak ? Rajak, c'est un jeu avec une forte interaction. Penser à son score est important, mais regarder celui des autres l'est tout autant, car ajouter un jeton plus 5 à un joueur qui était à 21 le fait perdre immédiatement. Oui, grâce au jeton bonus, on va pouvoir modifier la valeur des cartes. Dans Rajak, il faut choisir le bon moment pour jouer des cartes. Les parties sont animées, et vu la rapidité, vous aurez envie d'enchaîner une autre partie. Une belle expérience ludique que nous propose une nouvelle fois Studio H. Et comme d'habitude, l'édition est très belle, les cartes ont même des dorures. Une petite pépite pour moins de 20 euros. Voilà, c'était Rajak aujourd'hui. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Ludo pour le point sur les J. Il va nous parler aujourd'hui de Kickstarter.
C'est la pause du midi, il te donne son avis. C'est ludique, c'est ludique, c'est le point sur les J.
Le point sur les J, tous les lundis dans votre radio avec Ludo. Salut Ludo.
Salut Matt.
Alors, nouvelle rubrique, s'il y a bien quelqu'un qui peut donner son avis sur une question autour du jeu, c'est bien toi, Ludo.
Je suis pas tout seul, t'inquiète pas, mais en tout cas, ce que j'aime bien le faire. Donc, c'est pour ça que on s'est mis d'accord cette année pour démarrer comme ça, de changer de rubrique et de pas parler d'actualité, mais de parler en fait d'un sujet un peu plus en profondeur, un peu plus écrit, sur en décortiquant un petit peu pour que les gens puissent après, s'ils veulent, aller plus loin. En donnant mon avis.
Mais c'est ça.
Ce que ça vaut, quoi.
C'est ça. Non, mais alors là, on change de rubrique, on change d'horaire, on change tout, finalement.
On change tout. On change pas grand chose.
C'est...
Parce que l'amour du jeu est toujours là et les auditeurs seront toujours au rendez-vous.
Exactement. Ludo, aujourd'hui, le premier sujet, KS, arnaque ou opportunité?
Exactement, Kickstarter, arnaque ou opportunité, on y va. Tout d'abord, on va un peu expliquer qu'est-ce que le financement participatif. Je pense que c'est important. Le financement participatif ou crowdfunding, on appelle ça aussi comme ça, est un échange de fonds entre individus. C'est en dehors des circuits financiers institutionnels, dans le but de financer des projets via une plateforme en ligne. En ce qui nous concerne, les projets, c'est les jeux de société ou les jeux de rôle, en tout cas tout ce qui est ludique. Alors, il existe plusieurs plateformes de financement et les plus connues des ludistes sont bien sûr Kickstarter en premier, GameFund et aussi Ulule pour les plus petits projets.
Ouais.
Alors, pour faire un petit point, 2024, accroche-toi bien parce qu'on va parler des chiffres.
D'accord, je m'accroche. Kickstarter,
tu t'accroches, c'est bon. Kickstarter, c'est plus de 87 000 projets jeux financés en 2024.
Ok.
Pour 2,33 milliards de dollars de fonds collectés. Mmh. Et un pourcentage de réussite de 49,65%, en sachant que la moyenne de tous les projets est de 41%. Donc, okay. En fait, le jeu, il est quand même en dessous de la moitié, donc des 50%, mais il est quand même mieux loti que la moyenne de tous les projets. Alors, du côté du porteur de projet, il y a des frais. Mmh. Si le projet est financé dans son intégralité, Kickstarter va prévoir donc des frais, percevoir des frais de 5% sur les fonds collectés. C'est pas rien. De plus, Strip, c'est le prestataire de traitement des règlements facture des frais de, donc il facture des frais de règlement par carte.
D'accord.
Qui peuvent varier entre 3 à 5 %.
OK.
Donc ça, c'est important de le dire, que l'intégralité de l'argent ne va pas à l'entreprise qui initialise le projet.
Ouais.
Pour les backers, donc les backers, c'est ceux qui soutiennent, hein, on les ouais. appelle comme ça, il y a souvent la proposition d'un jeu moins cher que le prix de vente en boutique, avec du matériel exclusif et en souvent la promesse d'une livraison avant la sortie dans le réseau de distribution classique.
Heureusement que tu dis une promesse.
J'ai dit souvent, ouais. En fait, les hicks, c'est qu'avec les frais de port, les frais de douane, les frais de tout ce que tu as envie, le prix revient parfois plus cher qu'en boutique,
ouais.
Qu'il n'y a pas toujours une version française du jeu, ou alors il y a des règles, tu vois, qui sont traduites par la communauté ou
oui.
par des professionnels, mais sorties d'on ne sait où, qu'il y a beaucoup de retard dans la livraison, et parfois, bah, il y a des mauvaises surprises, comme des frais supplémentaires, tu sais, quand le monsieur, il sonne à ta porte,
ouais.
et il t'amène le jeu et un petit bout de papier, il te demande de sortir ta carte bleue.
C'est ça.
Ça arrive. Il apparaît aussi que le jeu soit proposé en boutique avant que les souteneurs reçoivent leur copie. Bon, ouais, ça arrive.
Ça arrive aussi.
Bon. Dont acte. Certains dossiers d'arnaque présumée ont aussi éclaboussé notre secteur, comme le financement réussi du jeu Jurassic World Miniature Game en 2020.
D'accord.
Avec plus de 600 000 euros perçus chez Feu Exod Studio.
D'accord.
Ou bien la faillite de l'éditeur Ninja Division pour le jeu Super Dungeon Explore Forgotten King en 2014. Bon, là, c'était il y a 10 ans. Hein.
Oui.
1,2 million de dollars, quand même, hein, qui ont disparu dans la nature. Et récemment, la faillite de Mythic Games en France, qui a certes vendu beaucoup de ses licences comme Mythic Battle à Monolith, ou les difficultés de livraison du jeu Monumental chez nos amis de chez Funforge, qui était une campagne de 2020, alors que la version boutique est disponible depuis des semaines.
Oui, voilà.
Ça arrive aussi.
Ça arrive aussi. Donc là, tu as l'air de dire, là, on est plutôt dans une partie arnaque Kickstarter, c'est ça ?
Ouais, bah, disons qu'effectivement, il y a pas mal de points négatifs. Quand on ne connaît pas et qu'on met le doigt dedans la confiture, bah, parfois, elle a tourné, hein, un peu comme la mayonnaise. Alors, selon le magazine Fortune, qui est un magazine américain relativement connu, la fraude sur caisse serait d'environ 18%. Ça, c'est un chiffre de mars 2024.
D'accord. Donc
18%, alors c'est une évaluation, mais ils ont quand même enquêté, et 18%, c'est pas rien. Alors, il faut pas fuir pour autant ce modèle de financement. Souvent, le plus souvent, d'ailleurs, ça se passe bien. Alors, il faut quand même vérifier 2-3 trucs. Je vais vous donner 2-3 petits conseils quand vous mettez un peu les doigts dedans pour la première fois. Alors déjà, s'intéresser à la notoriété, à l'image de l'éditeur.
C'est important.
Regardez ses autres projets. Est-ce que c'est son premier projet ? Est-ce qu'il a fait autre chose ? Est-ce qu'il a fait autre chose sur du financement participatif ? Dans ces cas-là, vous pouvez aller voir parce que tout est gardé en ligne. Ou alors, est-ce qu'il a fait autre chose en boutique ? Existe-t-il une version française qui est prévue ? En fait, là, ça facilite aussi un petit peu les choses, parce qu'en général, ça passe du coup par un éditeur français,
ouais.
qui a plus ou moins pignon sur rue, et qu'on peut même croiser dans un festival. Donc, pour avoir des informations, quand il y a une version française, c'est quand même plus facile. Quels montants sont les frais ? Les frais de port, ça, en général, c'est annoncé. Même si parfois il y a un peu de surprise, sachez que bah ils travaillent avec des transporteurs, avec des
mais
entreprises
oui.
qui font les cartons, etc. Et selon le prix des matières premières, ça peut bouger un peu, mais les frais de douane, par contre, bah là tu mets le doigt dans ta bouche, tu le lèves, tu regardes comment le vent tourne, et là en général, bah c'est indiqué qu'il y a peut-être des frais de douane, mais c'est jamais trop indiqué combien. Parfois ça peut monter à 10-15% du prix, donc bah c'est pas rien non plus. Intéressez-vous à la date prévisionnelle de la livraison. aussi. Regardez à peu près, parce que si on vous dit que le jeu il est livrable dans 6 mois et qu'il y a 12 kilos de figurines, bon, bah déjà, ça sent pas bon. Et puis votre intérêt réel pour le jeu, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable à l'instant T quand vous appuyez sur le bouton avec votre magnifique souris, est-ce que vous allez vous dire ok je le veux vraiment ou est-ce que j'ai pas quelque chose de similaire ou est-ce que c'est juste la thématique qui me plaît, la taille des figurines ou la couleur des dés. Donc intéressez-vous un peu en substance à la mécanique, essayez de trouver des infos sur BGG. Peut-être des protos qui ont tourné, des avis sur les prototypes, et essayez de voir si c'est quelque chose qui vous correspond. Oh. Il faut savoir que le financement participatif, il a changé depuis une grosse décennie. Maintenant, on assiste plus à des projets de précommande de jeux, comme pour Simone, donc Cool Mini or Not. Nous, on l'appelle Simone, ça fait un peu le prénom de ma voisine, j'aime bien, pour la gamme des zombicides, plutôt que d'un vrai soutien social et économique à des petits porteurs de projets.
Ouais.
Par exemple, côté français, les projets de l'éditeur Monolith sont aussi axés désormais vers des productions qui sont faites en amont et les temps de livraison donc sont très courts. Et les derniers temps, là, c'était environ 6 mois en moyenne.
D'accord.
Donc le format aussi est en train de changer. Alors, à la faute au Covid ou à d'autres éléments, peut-être aussi au grognement sonore des backers qui commencent un peu à en avoir marre d'être livrés sur 4 ans.
Et retrouve plutôt, Ludo, des gros jeux sur Kickstarter. C'est rare qu'il y ait des petits jeux quand même ou ça se fait ?
En fait, ça dépend parce que depuis l'avènement du Covid et le fait qu'on ait été bloqué chez nous, il y a beaucoup de jeux aussi en print and play, donc des roll and write ou des choses comme ça, qui sont aussi financés sur les plateformes. Mm-hmm. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de délai d'attente.
D'accord.
C'est-à-dire que dans les semaines qui suivent, vous avez vos fichiers à télécharger et vous pouvez directement les imprimer. Vous avez les règles du jeu et là, c'est un peu automatique.
Ouais.
En général, ça, c'est des petits projets qui ne sont pas trop chers. Il n'y a pas de frais de port. Donc parfois, ça coûte 2-3 euros.
Bon, okay.
Voilà, ça vaut le coup. Maintenant, le financement participatif, il correspond également à une attente chez certains joueurs qui accordent beaucoup d'importance à la qualité du matériel ou qui sont frappés de complétude aiguë. Effectivement, Kickstarter et consorts offrent effectivement la possibilité d'acquérir un matériel exclusif, souvent non disponible à la vente en boutique, ça coûterait vraiment trop cher, qui va magnifier, voire même parfois qui va améliorer l'expérience de jeu. Alors ça peut être des inserts, ça peut être des tapis, ça peut être la qualité du matériel, l'épaisseur de la boîte, ou juste une couverture de boîte un peu différente.
D'accord.
Une campagne de financement participatif, c'est aussi une petite aventure en soi. Effectivement, suivre les jours qui passent, voir le montant augmenter, guetter les goodies apparaître au fur et à mesure de la levée, des stretch goals. Il y a certaines addictions à suivre le financement d'un jeu par le biais du participatif. Je sais pas si toi ça t'arrive, mais moi, sur une campagne, je me rappelle, tu me connectais tous les jours.
Pour savoir, oui. Bah, j'ai fait ça, moi, c'était pas pour un jeu, mais c'était pour une table de jeu.
Eh ouais, tu vois, bah, ça peut effectivement être un autre objet. Et tous les jours, on va se connecter pour voir où ça en est, etc. Donc, il y a un phénomène un peu addictif aussi à prendre en compte et on se prend au jeu directement. Il y a même une tension parfois qui s'installe quand notre désir se heurte soudainement à la fin précoce d'un projet. Bim, annulé, cancelled, faute d'un financement atteint ou à la fin en cours de campagne.
Donc
ça
là, du coup, t'es remboursé par contre.
Oui, alors, effectivement, t'es remboursé quand c'est comme ça. Il faut savoir qu'effectivement, même si le créateur n'atteint pas son objectif de financement, même pour lui, il n'y a pas de frais qui sont pris.
Ouais, d'accord.
Cette exclusivité de certains jeux ou certains formats de jeux est aussi un manque à gagner au réseau de distribution classique qui sont nos chers ludicaires. À l'heure où à la durée de vie moyenne d'un jeu en rayon se compte en semaines, quid des projets venant du financement participatif localisés quelques semaines ou mois après la livraison des jeux? On peut se poser effectivement cette question.
Mmh.
C'est de toute façon très clair, si la campagne est un succès, alors forcément, à 90%, la localisation par un éditeur francophone prendra le relais si le jeu est bien adapté au marché européen et le jeu atterrira en boutique. Ou alors oui, souvent sous sa forme la plus simple et la moins de luxe, un peu comme au McDo, mais souvent le jeu est bon dans son habile plus léger, le reste est souvent un apparat non obligatoire qui n'apporte pas non plus le nécessaire pour transformer complètement votre expérience de jeu. La conjoncture économique et les problèmes géopolitiques et la dimension écologique actuelle nous font aussi repenser notre façon de consommer nos loisirs et ne nous permettent plus, pour la plupart d'entre nous, d'engager de l'argent sur une livraison à 2 ou 3 ans.
C'est
clair. Moi, c'est terminé. Je veux dire, mettre 100 balles et puis avoir le jeu dans 2-3 ans. Et puis, en plus de ça, on pourrait se recentrer sur les intérêts de participer à du crowdfunding ludique. Ouais. Est-ce que c'est soutenir un acte de création? Est-ce que c'est soutenir une entreprise d'édition de jeux? Est-ce que c'est avoir la possibilité d'avoir un jeu en exclusivité ou en avance, parfois quelques jours hein, uniquement, ou avoir du matériel supplémentaire non vendu en boutique? Ouais. Un peu, quel est notre intérêt, en fait, tu vois, à y aller?
Et surtout, alors, l'avoir dans 3 ans, est-ce que dans 3 ans, tu auras les mêmes envies qu'aujourd'hui?
Oui, je vais en parler, effectivement, de ça, tu as raison, parce que nos goûts, ils changent. Et effectivement, souvent, on a un petit côté déçu. Alors, il est vrai que ces quelques avantages peuvent encore être des chants de sirène sur certaines oreilles, mais dans la société ludivore actuelle, pour moi, ça rajoute une couche de plus en plus difficile à digérer sur le gâteau des sensations ludiques. La majeure partie des clients du crowdfunding sont des joueurs non débutants et du fait qu'ils savent totalement ou partiellement que le jeu sera récupéré par un éditeur ou qu'il arrivera directement en retail, en boutique, à terme. En plus, l'augmentation des taxes et autres frais annexes double et même parfois triple le prix d'un jeu. Moi, ça m'est arrivé sur un jeu de foot qui a été localisé après par Yellow, où j'ai payé 2 fois le prix.
Ah oui, c'est vrai.
J'étais content. Ouais, j'étais super content. Force est de constater en ce moment qu'une partie paraissant croissante des ludistes achètent des prix au lieu d'acheter des jeux. Pour illustrer ça, on remarque le déploiement des journées braderies des éditeurs comme Yellow, Gigamic ou même Asmodée. Dans des boutiques éphémères, des ouvertures d'entrepôts où les gens s'amassent inlassablement après 4 à 5 heures de file d'attente sous la pluie pour acheter des jeux en surproduction pour la plupart qui ne seront pas joués ou revendus dans l'heure. La revente, parlons-en, pour les jeux issus du financement participatif. Il est courant de constater des annonces florissantes de pledges complets de jeux financés le lendemain de leur livraison avec des plus-values plus ou moins fortes.
Alors,
il y a plusieurs explications. Oui, ça arrive beaucoup.
D'accord.
Quand on est comme moi et qu'on regarde les sites de revente, parfois ça se compte en heures. Hein.
Ah oui, d'accord.
Alors, il y a plusieurs explications et là on va revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Il y a l'envie de la culbute. Alors ça n'a rien à voir avec toi. Hein. C'est le produit qui est, comme il n'est pas distribué en boutique, il est rare, donc il apporte une plus-value forte.
D'accord.
Donc il est dans la hype, et donc il ne faut pas tarder à le revendre.
Okay.
Donc si tu as envie de faire de l'argent, il faut le revendre tout de suite sans y avoir joué, même vers le carton. Après, il y a, comme tu disais, le fait que l'envie soit passée, qui ne correspond plus à tes goûts, qui ont évolué. Pendant 2 ans, tu jouais à autre chose, et du coup, tes goûts ont évolué. Même tes copains, tes joueurs, etc., ton environnement a évolué, t'as peut-être même déménagé, donc du coup, ça correspond plus. Et puis le jeu a déjà été joué entre la fin de la campagne et la livraison, ça arrive en fait, par exemple lors d'un salon ou un festival.
Ah oui.
En fait, tu te rends compte que c'est une erreur de casting.
D'accord.
En fait, t'as trouvé que le rose était vraiment joli, mais qu'en fait, sur la boîte, en vrai, ça rend pas terrible, quoi. Bon, la conclusion, à moins d'être un joueur qui a les moyens financiers, qui craint pas les risques liés à l'attente, et elle peut être longue, et qui peut gérer des surcoûts et des retards, moi, je vous conseille, et c'est ce que je fais, prioriser plutôt les jeux en sortie boutique, et ça fera aussi plaisir à votre ludicaire de proximité.
Exactement. Merci beaucoup, Ludo, pour cette première chronique autour de KS, donc arnaque ou opportunité. On conclura qu'on est plutôt sur de l'arnaque, alors, que de l'opportunité.
Alors non, c'est que 18%, mais en tout cas, pour moi, je prends plus le risque.
Parce oui,
que
toi, bon, tu prends plus. Voilà, t'en as fait combien de Kickstarter?
Moi, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup trop. Mais maintenant, les seuls que je fais, c'est soit des jeux asiatiques, parce que je sais pertinemment qu'ils n'arriveront pas en France.
D'accord.
C'est extrêmement rare, en fait, quand ça vient d'Asie.
Ouais.
Et des petits projets. En général, je ne pledge plus les jeux qui sont au-dessus de 30 euros. FDP, donc frais de port compris.
D'accord.
Parce qu'il y a trop d'attentes, trop de stretch goals, trop de trucs, etc. Et puis il y a de l'eau qui a coulé aussi sous mes ponts ludiques et je me rends compte que plus la boîte est grosse et c'est pas forcément la promesse ludique qui est meilleure.
Ouais. Merci beaucoup Ludo, on se retrouve, alors pas la semaine prochaine parce que je serai à Vichy, mais dans 15 jours, est-ce que tu as déjà le sujet dans 15 jours?
On parlera d'intelligence artificielle.
Ah, l'intelligence artificielle.
On va mettre le doigt dans un truc encore.
Ah, ça c'est sûr. Merci Ludo et très bonne semaine.
Bonne semaine à vous.
Salut.